est partout, partout autour de nous et partout à l'intérieur de nous. Dans l'espace, le cosmos et dans les plus petites particules quantiques. Et pourtant, nous ne savons toujours pas exactement ce que c'est que le vide. Ajoutez à cela un soupçon de conception taoïste de l'univers et vous obtiendrez la plénitude du vide, le nouveau livre de notre invité qui examine depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours cette curieuse notion du vide, un vide étrangement plein, sans aucun passage à vide. L'univers est-il vide? C'est le vaste problème que nous allons tenter de résoudre avec notre invité dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Trinh Chuan Tuan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de passage en France pour donc la sortie de votre livre, La plénitude du vide, c'est chez Albin Michel. Alors quelques mots de présentation pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas. Vous êtes astrophysicien, enseignant à l'Université de Virginie aux États-Unis ainsi qu'à l'Institut d'astrophysique de Paris. Parmi vos faits d'armes, vous avez notamment découvert, grâce à l'analyse des données du télescope spatial Hubble, la plus jeune galaxie connue de l'univers, qui a un joli nom.
Unzuki 18.
Unzuki 18, tout à fait. On dirait presque un animal de compagnie. Et vous publiez donc cet ouvrage consacré à l'analyse historique, scientifique, philosophique, théologique du vide, après avoir consacré un ouvrage à l'infini. Passer de l'infini au vide, du vide à l'infini, ça fait de vous un scientifique extrémophile?
Oui, parce qu'en fait, vous savez, le zéro et l'infini sont bien sûr les deux facettes de l'extrême, comme le yin et le yang sont complémentaires. Vous voyez, vous prenez un nombre, vous divisez par zéro, vous obtenez l'infini. Vous prenez un nombre, vous divisez par l'infini, vous obtenez zéro. Donc, en fait, les Grecs, vous savez, avaient l'effroi de l'infini et ils avaient aussi l'effroi du zéro.
Et donc du vide. On va en reparler dans un instant. Racontez-moi d'abord d'où est partie cette envie de consacrer tout un ouvrage au vide et à ses origines.
Parce que le vide, au fil de mes recherches, je m'aperçois qu'il joue un rôle de plus en plus important dans l'explication de l'origine, de la naissance même de l'univers. Vous voyez, et donc la naissance de l'univers, son expansion exponentielle, ça veut dire ce qu'on appelle la période inflationnaire du début de l'univers.
C'est-à-dire après le Big Bang. Hein.
Après le Big Bang, une fraction de seconde après le Big Bang, 10 puissance moins 34 secondes. Et puis aussi, ce vide rempli d'énergie, donc ce vide n'est pas néant, mais il remplit d'énergie, et l'énergie se convertit en matière. Donc il est à l'origine de toute la matière de l'univers aussi, et donc de notre propre existence. Et puis maintenant, vous savez, depuis 1998, on a découvert que l'expansion de l'univers, au lieu de décélérer, comme l'on pensait auparavant, est en train d'accélérer. Donc il y a une force anti-gravité qui est en train de repousser l'espace aussi, et donc ça, on pense aussi, c'est dû au vide. Donc le vide joue beaucoup de rôle dans la formation et l'évolution de l'univers.
Vous dites même le vide est la matrice de tout.
Oui.
Intellectuellement, quand on décompose un peu cette phrase, peut paraître antinomique ou paradoxal, tout du moins. Le vide est la matrice de tout.
Non, mais justement, elle a l'origine non seulement, donc vous voyez, de la lumière, de la matière et donc des étoiles, des planètes et de nous dans l'univers, de toute forme d'intelligence et de vie dans l'univers.
Alors, on reparlera tout à l'heure de ces dimensions, de la dimension religieuse, même philosophique, du vide, puisque vous l'abordez dans votre livre, La plénitude du vide. Mais pour commencer peut-être simplement par le début, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de définir le vide? Le vide, c'est quand il n'y a rien.
Oui, mais justement, le vide n'est pas rien. Donc, le vide est plein. Bon, il est à l'origine de tout. Certaines personnes ne pouvaient pas tolérer même l'idée d'un vide qui n'est que rien. Vous voyez, Aristote avait dit « la nature a horreur du vide ». Donc, il a eu tellement d'influence dans la pensée occidentale que pendant 20 siècles, tout l'Occident pensait que l'univers était rempli de quelque chose, mais l'espace était rempli de quelque chose.
Mais ça, on en reparlera. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut concevoir le fait qu'il n'existe pas, si vous me passez cette expression-là, de vide parfait, c'est-à-dire de vide qui soit le néant?
Parce que, bon, de nouveau, c'est, moi j'en appellerais à la science de nouveau, c'est la mécanique quantique nous dit que quand on regarde à des échelles extrêmement petites, de l'ordre de 10 puissance moins 33 cm, ce qu'on appelle la longueur de Planck, l'espace qu'on croit vide, justement, se dissout en ce qu'on appelle une mousse quantique, des fluctuations de... Et le temps et l'espace n'ont peut-être même plus de signification, des fluctuations, parce que à cause de ce qu'on appelle le principe d'incertitude de l'énergie, parce qu'on ne peut pas définir l'énergie qui donc donnerait naissance à des particules, parce que énergie égale matière. Donc, on ne peut pas définir en même temps l'énergie précisément et le temps de vie précisément. Donc, il y aura toujours de l'incertitude, et donc, il y aura l'espace qu'on pense lisse est rempli de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent dans des cycles de vie et de mort infinitésimalement petits.
C'est l'incertitude quantique. Pour que qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que si on pense a priori que quand on sort de l'atmosphère, quand on se retrouve dans l'espace, dans le cosmos, on se retrouve dans le vide.
C'est le vide intersidéral. Voilà.
Mais ce vide intersidéral, il n'est pas tout à fait vide, en
tout
vrai,
à fait vide. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc d'abord. Il faut d'abord dire que la plupart de notre atmosphère, vous voyez, l'atmosphère, c'est comme une fine couche, comme la peau d'une orange. Ici, on réduit la taille de la Terre à une orange. Et donc, en fait, quand on passe l'atmosphère, on se retrouve dans le vide incertain qui est presque vide, en fait. Parce que si on prend... On prend toute la matière qui est contenue dans les 100 milliards de galaxies qui peuplent l'univers observable, chacune contenant 100 milliards de soleils, et on répartit dans le volume de l'univers uniformément, on n'a que 5 atomes par mètre cube. Dans un volume de mètre cube, vous voyez, il y aura 5 atomes.
Donc c'est presque vide, mais c'est pas exactement vide.
C'est presque vide, plus vite que tous les vides qu'on n'aurait pu jamais créer sur Terre, par exemple. Donc c'est presque vide. Mais par exemple, donc quand un astronaute s'en va vers la Lune, vous voyez, il traverse beaucoup plus de matière dans les 10 premiers kilomètres que pendant tout le reste du trajet. Et le trajet, c'est 380 000 kilomètres. Vous voyez, donc c'est du presque vide.
C'est du presque vide. Oui. Le vide, en fait, en physique, est une notion expérimentale. Le vide, tel que la physique le définit, c'est ce qui reste quand on a éliminé tout ce qu'il est expérimentalement possible d'enlever d'une partie de l'espace.
Exactement. Et donc, on a créé des vides de plus en plus réduits ici, sur Terre. Mais comme je vous l'ai dit, c'est encore des milliards de fois plus grand que le vide de l'espace.
C'est-à-dire que sur un protocole expérimental sur Terre, on n'arrive pas à recréer le vide spatial exactement. Quand on crée du vide de façon expérimentale sur Terre, c'est un vide beaucoup plus peuplé que le vide intersidéral.
Oui, parce qu'on n'a pas la technologie nécessaire, justement. Donc, c'est donc le vide. Mais il faut dire que il faut saluer ce vide expérimental quand même que les hommes ont conquis, parce que vous savez, comme je vous ai dit, Aristote pensait que la nature aurait du vide, donc on peut pas créer du vide du tout sur Terre. C'est ce qu'il pensait. Mais finalement, à la Renaissance, des gens comme Galilée, ou Pascal, etc., donc commencent à créer du vide expérimental.
Alors ça, on va y revenir tout à l'heure sur cette histoire du vide et sur ce que vous définissez dans votre livre comme le vide mathématique, c'est-à-dire le zéro, qui a une histoire tout à fait passionnante, comme on va le voir dans quelques instants. Mais puisqu'on parle de vide expérimental, nous avons notre petite équipe de cobayes à la méthode scientifique, qui sont nos reporters, et qui vont assister à des expériences, qui enfilent la blouse pour aller en laboratoire. Et c'est le cas de Céline Lezen aujourd'hui. Bonjour Céline.
Bonjour Nicolas, bonjour Trine Chonchon.
Bonjour. Vous êtes allée, Céline, dans votre endroit préféré au monde, à Orsay.
Exactement.
On vous envoie en permanence, et vous êtes allée tester, vous êtes allé dans un endroit où on fabrique du vide. Alors, Céline, peut-être une question bête pour commencer. À quoi ça sert de faire du vide?
C'est vrai qu'on pourrait se poser la question de manière tout à fait légitime. Le vide, à quoi ça sert? Eh bien, en fait, ça sert dans de nombreux domaines expérimentaux et c'est très utilisé dans l'industrie, notamment l'agroalimentaire, la chimie ou l'électronique. C'est simple. Dès qu'on a su en faire, le vide est devenu incontournable et c'est un peu la spécialité de l'IUT Mesures Physiques à Orsay où je suis retournée. Ils sont même capables de reproduire du vide comme celui qu'on retrouve dans l'espace pour étudier des phénomènes quantiques.
Alors, on vient d'entendre que c'est pas tout à fait du vide comme dans l'espace, mais pas loin. Mais expliquez-nous, Céline, comment on arrive à faire du vide?
Ils utilisent des pompes et il en existe différents types pour faire différents types de vide, du vide primaire, du vide secondaire, de l'ultra-vide.
Donc il y a plusieurs sortes de vide.
Oui, c'est ça, le vide n'est pas tout à fait vide, mais on va dire plus ou moins rempli. En fait, c'est une question de pression, un peu comme dans l'univers. Même quand on a aspiré tout le gaz, toutes les molécules d'un volume, il reste quand même des petites particules résiduelles, des particules virtuelles, comme on dit. Enfin, je vais laisser le physicien Armand Lenoxaïc et son collègue Laurent Naga vous faire découvrir leur manip dans ce laboratoire assez spécial.
On écoute.
Alors nous allons nous diriger vers le laboratoire de vide de l'IUT d'Orsay, qui est le premier laboratoire en Europe en technique du vide. Alors ça peut paraître paradoxal, pourquoi faire du vide? Eh bien, à partir du vide, on peut fabriquer beaucoup de choses. Et là, on rejoint quelque part le philosophe chinois Lao Tzu. À partir du non-être, et va émerger l'être, puisque de nombreux éléments de tous les jours sont fabriqués dans le vide. La plupart des branches de l'industrie utilisent cette technique. Là, nous rentrons en fait dans ce laboratoire de vide dont je viens de vous parler. Et vous voyez, c'est un très très grand laboratoire, 400 mètres carrés. Là, vous entendez déjà le ronronnement d'une pompe qui a été éteinte. Je vais vous présenter mon collègue Laurent Naga, qui est justement le responsable technique de ce laboratoire.
Donc je m'occupe de la maintenance, je m'occupe de monter, enfin de fabriquer de nouvelles expériences. Pour faire du vide, il faut un pompage. Nous avons plusieurs types de pompes, soit des pompes à diffusion, des pompes turbomoléculaires ou des pompes cryogéniques.
Vous me parlez de pompes thermomoléculaires, de pompes cryogéniques, et pour quelle utilisation toutes ces pompes?
Si vous voulez, on s'évertue dans nos laboratoires à refaire ce qui est très commun dans l'univers, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'applications industrielles et en recherche de ce vide, notamment pour les accélérateurs de particules. Si on veut accélérer un faisceau d'électrons, par exemple, jusqu'à une vitesse très proche de celle de la lumière, on doit faire du vide, en fait, pour qu'il n'y ait le moins de molécules possibles qui gênent le déplacement de ces électrons, ou pour faire des simulations spatiales. Avec Laurent, on va vous allumer un bâti avec une pompe turbomoléculaire et en quelques minutes, on obtient un vide qui est proche de celui qui est à la surface de la Lune.
La pompe primaire. Sur cette manip-là, la pompe primaire, c'est une pompe spirale qui a un vide limite à 10-1 hectopascal.
On va entendre le bruit du rotor qui tourne de la pompe turbomoléculaire. Donc c'est très proche d'un réacteur d'avion.
La pompe turbomoléculaire s'élance, donc le vide descend, mais doucement encore. Mais là, on entend déjà le bruit de la turbo, donc c'est la turbine, donc c'est la vitesse de rotation.
Vous êtes capable de créer un vide tel qu'on peut le trouver dans l'espace ou sur la Lune, c'est ce que vous dites?
Alors, on peut créer le vide que l'on rencontre à la surface de la Lune, en effet. On peut descendre à 10-9 millibars sur certains postes de travail, mais il faut savoir que très rapidement, à plusieurs centaines de kilomètres de la Terre, on est déjà dans l'ultra-vide, 10-10 millibars, et dans l'espace intergalactique, on descend en dessous de 10-20 millibars.
Donc là, on est tombé à 42 millibars.
Il reste encore des molécules. Quand on parle de vide, c'est un abus de langage qui date du XVIIe siècle, à l'époque de Blaise Pascal. On n'avait pas les moyens technologiques que vous voyez évidemment autour de vous. Et donc, dès que la pression chutait en dessous de la pression atmosphérique, on disait qu'on faisait du vide, sans avoir les moyens de déterminer s'il restait encore des molécules. Aujourd'hui, on a tous les moyens que vous voyez pour justement déterminer la quantité de molécules qu'il reste. Le vide, on l'utilise dans quasiment toutes les branches de l'industrie. C'est la chimie, la métallurgie, l'agroalimentaire, l'électronique. Par exemple, si vous prenez un exemple, un exemple très simple que tout le monde utilise, une brosse à dents. Pourquoi le manche est-il si lisse? C'est parce qu'il a été moulé sous vide. Pourquoi les fils sont si réguliers? C'est qu'ils ont été étirés sous vide. On peut multiplier le nombre d'exemples. Le vide est partout dans l'industrie, en fait. Et il est parti autour de nous, bien sûr, dans le cosmos, mais ça, c'est une autre histoire.
Voilà, c'est la voix du physicien Armand Lenoxaïc, dont je précise qu'il a écrit aussi un très bon ouvrage sur la question qui s'appelle « Les métamorphoses du vide » qui a été publié en 2004 chez Belin. Vous connaissiez ces travaux? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce reportage, Trinh Chuan Tuan?
Non, je rends hommage à tous ces travaux qui sont formidables, qui aident beaucoup justement l'industrie agroalimentaire sur Terre pour conserver nos produits alimentaires, etc. Oui, c'est extraordinaire, bien sûr, le vide, le progrès qui a été accompli depuis, donc, il mentionnait Pascal, du XVIIe siècle, la Renaissance, où pour la première fois le vide expérimental a été créé. Jusqu'à maintenant. Mais vous voyez, il a bien dit qu'il y a encore 10 milliards de fois plus de matière encore dans le vide qu'il a créé que dans le vide intergalactique, le vide entre les galaxies.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir... qu'est-ce qui manque à la technologie actuelle et aux chercheurs pour pouvoir s'approcher plus d'un vide intersidéral? Et qu'est-ce que ça permettrait? Quelles seraient les applications possibles de la création de ce type de vide, Trinh Chuan Tuan?
Je pense que, bon, à mesure que la technologie va avancer, je pense qu'on pourra créer de vides de plus en plus performants. Mais bon, je sais pas si aller jusqu'au vide intersidéral nous apportera grand-chose, parce que à l'échelle de la vie humaine, je pense que les vides que le laboratoire, le physicien a déjà
Armand Lenoxaïc.
Je pense que c'est déjà très bien déjà.
Ouais. Eh bien, on va libérer Céline Lezenne. Vous pouvez retourner à Orsay où vous avez pris vos quartiers. Merci beaucoup.
J'y retournerai, oui.
Merci beaucoup pour ce reportage.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Et 16h17 sur France Culture, Trinh Chuan Tuan est notre invité pour son livre « La plénitude du vide » chez Albin Michel. Alors, on va aborder la partie plus historique, hein, qui est une grande partie de votre ouvrage. Vous remontez aux origines du vide, et c'est ce qui est assez d'ailleurs passionnant. Votre point de départ, c'est le vide en mathématiques.
Tout à fait.
C'est-à-dire le zéro. Et vous vous demandez pourquoi l'Antiquité grecque a eu tant de mal à envisager le zéro, à l'intégrer à son système de pensée. Pourquoi?
Oui. C'est un grand puzzle, parce que les Grecs étaient très avancés en mathématiques. Ils ont inventé, vous savez, la géométrie les axiomes d'Euclide. Enfin, tout ça, ça fait encore la base de nos mathématiques. Et pourtant, ils n'ont jamais inventé le zéro. Il fallait attendre jusqu'au 5e siècle pour que les Indiens l'inventent. Alors, je pense que ça, c'est dû à une profonde c'est des effets métaphysiques, donc un effroi métaphysique du zéro, je pense. Parce que le zéro était associé au néant, et le néant pour les Grecs était impossible parce que ça crée un désordre social.
C'est-à-dire que vous dites que les Indiens inventent le zéro, mais est-ce que les Indiens inventent vraiment le zéro? Est-ce que la notion de zéro n'était pas du tout conceptualisée avant le 5e siècle? Il n'y avait pas de rien.
Oui, parce que justement à cause de cet effroi métaphysique des Grecs. Tandis que en Orient, vous voyez, on parlera tout à l'heure donc du taoïsme, du bouddhisme, et puis l'Inde est bien sûr imprégnée de cette culture. Donc le zéro, au contraire, est la matrice de tout.
Pourquoi est-ce que c'est plus facile de conceptualiser ce vide mathématique en Inde que dans l'Antiquité occidentale?
Non, parce qu'il y a pas. Donc le concept était plus familier, et c'est quelque chose qui embrassait tout. Vous voyez, au lieu de provoquer de la peur. En fait, la panique ou la peur. Donc, vous allez naturellement vers un concept qui vous embrasse plutôt que vous exercez la répulsion.
Vous dites aussi que tous les mythes fondateurs de l'Antiquité sont des mythes avec une création originelle.
Oui, toujours avec un substrat primordial. Vous voyez, ça part pas d'un vide, de néant. Donc par exemple, Aristote pensait que c'était les quatre éléments, terre, eau, feu et air. Et puis, il ajoutait même un cinquième élément, donc ce qu'on appelle la quintessence.
Quintessence, étymologiquement, cinquième élément.
Oui, c'est ça. Et donc, l'éther qui va jouer un grand rôle, d'ailleurs, dans la pensée scientifique beaucoup plus tard.
Et alors, on va parler de l'éther tout de suite, mais vous dites dans votre livre Trinh Chuan Tuan que cette impossibilité conceptuelle, et c'est ça que je trouve assez intéressant, cette impossibilité conceptuelle à envisager le zéro a entravé la pensée scientifique occidentale pendant 20 siècles.
Tout à fait, parce qu'à cause du principe d'Aristote et
de la nature à horreur du vide.
De la nature à horreur du vide, donc oui, et donc ça a stoppé les progrès, et c'est seulement à la Renaissance que des gens comme Galiléo, Pascal, donc détruisent le tabou aristotélicien.
Alors donc, vous le dites, comme pour combler cette angoisse métaphysique du vide, Aristote remplace le vide par l'éther. Et pareil, cet éther, il va hanter la pensée scientifique jusqu'à très très tard.
Oui, tout à fait. Donc au XVIIe siècle, maintenant, c'est le grand Newton qui, avec sa théorie de la gravitation universelle, vous voyez, c'est la gravité qui dicte tout l'univers, à la fois la chute d'une pomme dans le verger, ou le mouvement de la Lune autour de la Terre, ou le mouvement des planètes autour du Soleil. Et il a besoin d'un substrat, justement, pour propager cette force de gravité. Parce qu'on ne voit rien entre la Lune et la Terre, mais pourquoi la Terre reste attachée à la Terre, la Lune reste attachée à la Terre. Et donc, il invoque l'éther. C'est l'éther qui transmet donc la force de gravité. Et puis, ce n'est pas fini, puisqu'au XIXe siècle, des gens comme Faraday et Maxwell, qui étudient donc la lumière, que Maxwell démontre que ce sont des ondes électromagnétiques, donc des ondes qui se propagent de nouveau dans un substrat, comme vous voyez les ondes d'une vague à la surface de l'océan. Donc on a la surface de l'océan ici, dans la mer, mais qu'est-ce qui fait la surface dans l'espace qui propage les ondes électromagnétiques? De nouveau, ils invoquent l'éther. Alors, mais en science, il ne suffit pas d'invoquer, il faut expérimenter, faire des expériences.
Il faut finir par observer, surtout.
Observer, voilà, c'est ça. Et donc, à la fin du 19e siècle, de physiciens américains qui s'appellent Michelson et Morley construisent un instrument qui s'en appelle interféromètre pour mesurer justement ce vent d'éther. Parce que vous voyez, si tout l'univers est imprégné d'éther, la Terre se déplace autour du Soleil à travers cet éther. Il devrait y avoir un vent d'éther, comme le cycliste sent un vent d'air sur sa joue quand il pédale. Donc, et ce vent d'éther devrait se manifester par des vitesses différentes de la lumière, dépendant de la direction selon laquelle on mesure cette vitesse. Or, il découvre rien. Voilà. Alors, grand étonnement, la vitesse de la lumière est toujours constante. Donc, apparemment, il n'y a pas de vent d'éther et donc pas d'éther. Vous voyez? Et c'est le prochain pas fut accompli donc par le génial Einstein, bien sûr, qui dit que, bon, puisque l'expérience ne démontre aucun éther, et puis il relègue l'éther aux oubliettes, en quelque sorte.
Mais je vais poser une question.
Donc, il supprime l'existence de l'éther.
Donc finalement, très tardivement, au milieu du XXe siècle.
Non, pas au milieu de 1915, au début du XXe siècle. Oui, oui, c'est ça. Et donc, il détruit toutes sortes de repères fixes et absolus. Vous voyez, tout devient relatif. En fait, ce qui est constant, c'est toujours la vitesse de la lumière. Quel que soit son mouvement, l'observateur observera toujours la lumière à la vitesse de 300 000 km par seconde. Ce qui va changer, c'est bien sûr l'espace et le temps. C'est-à-dire quelqu'un qui va se déplacer vite, voir le temps s'allonger, et puis l'espace se contracter.
Et on arrive à la relativité générale. Mais avant ça, je vais poser une question, je vais faire un rapprochement un peu trivial pour vous qui êtes astrophysicien, Trinh Chuen Tuan, mais est-ce que cet éther, c'est pas notre matière noire d'aujourd'hui?
Non, ça n'a rien à voir.
Parce que la matière noire, c'était, ou l'énergie noire, sont des choses qu'on n'observe pas, qui ont une existence théorique. Oui. Est-ce que finalement, on ne fait pas de la même façon fausse route sur l'énergie noire ou la matière sombre on a fait fausse route pendant des siècles sur l'éther?
Oui, non, moi je dirais pas que la matière noire et l'énergie noire, moi je pense que si on croit vraiment à la force de gravité de Newton, on doit admettre l'existence de la matière noire. Donc c'est pas un figment de l'imagination humaine, vous voyez, comme l'éther l'est finalement. Et donc on a même découvert la masse noire par exemple constitue environ 25% du contenu de l'univers, et on a même découvert maintenant que l'univers, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, est en expansion mais accélérée. Donc il y a une force anti-gravité maintenant qui au lieu d'être attractive et répulsive. Et ça, c'est dû au vide aussi, et ça occupe 70% du contenu de l'univers.
Alors, je vous propose...
qu'on appelle l'énergie noire.
L'énergie sombre, oui. Je vous propose d'enfreindre toutes les règles de la relativité générale et restreinte, puisqu'on va remonter le temps. Absolument. Grâce aux archives de notre partenaire, le CNRS Images, c'est un extrait d'un film de 2008, L'origine de l'univers. Vous alliez entendre Françoise Combe, qui explique ce que c'est que cette mystérieuse énergie noire.
Quand on augmente en fait l'expansion de l'univers avec le temps, alors je suis d'accord avec vous, il faut des milliards d'années, mais quand on augmente l'expansion de l'univers, vient l'hypothèse de l'énergie noire dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors d'abord, vous allez nous expliquer ce que c'est que l'énergie noire et est-ce qu'à terme, l'énergie noire, ça peut éventuellement permettre d'envisager des utilisations.
On ne sait pas ce que c'est, hein, l'énergie noire, déjà. Alors on s'est aperçu qu'elle existait. Lorsqu'on a fait des études de supernovae, donc des étoiles qui explosent, de façon très lointaine. Jusqu'à ces dernières années, jusqu'à une dizaine d'années, on pouvait observer ces supernovae que dans les galaxies proches. Aujourd'hui, on a un télescope plus puissant, et on peut l'observer jusqu'au milieu de l'âge de l'univers. Et donc, à ce moment-là, on a des jalons sur la taille de l'univers et sa géométrie à cette époque-là. On s'aperçoit que l'expansion n'est pas décélérée comme on le pensait, mais s'accélère. Et pour s'accélérer, il faut de l'énergie noire. Donc on sait aujourd'hui que dans les 100% de contenu de l'univers, il y a 75%, donc les trois quarts, qui sont de l'énergie noire. Donc on est dominé par cette énergie noire. Donc on le sait parce qu'on l'observe, mais on ne sait pas du tout ce que c'est.
Est-ce que ça ne veut pas dire qu'un jour, on saura ce que c'est, et peut-être un jour, on saura même l'utiliser?
Et c'est peut-être qu'une constante cosmologique, comme le disait Einstein, qui avait introduit cette constante dans les équations, pour intégrer ces équations. Aujourd'hui, les calculs, parce qu'on essaie d'avoir l'énergie, enfin les paramètres cosmologiques de cette énergie, on s'aperçoit que c'est très très proche d'une constante cosmologique. Hélas, parce que certains, justement, aimeraient trouver cette quintessence ou cinquième élément. Il se peut que ce soit une constante cosmologique, ou alors une autre hypothèse, que la gravité soit différente à très très grande échelle, et donc on est peut-être dans cette hypothèse, à changer nos lois de gravité. Mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment s'il existe un autre élément, un cinquième élément qui pourrait nous être utile.
Voilà pourquoi je vous posais la question tout à l'heure, Trinh Chu Antoine. On entend Françoise Combe dans cet archive du scénariste Image que vous pouvez retrouver en intégralité sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. On entend Françoise Combe donc parler de quintessence comme l'éther. Est-ce que
oui,
cette énergie
noire...
Oui,
ça c'est un modèle possible. Et donc je... C'est un modèle qui donc cette quintessence, peut-être cette force antigravité peut être née du vide, vous voyez, du vide qui exerce une force antigravité répulsive qui accélère l'accélération de l'univers. C'est un des modèles possibles.
Mmh. Et les autres modèles étant
L'autre, par exemple, la constante cosmologique, par exemple, vous voyez ce qu'elle a mentionné avec Einstein, mais qui est aussi une sorte de force d'antigravité. Bon, comme elle a très bien dit, on connaît pas très bien encore la nature, et bon, c'est le graal de l'astrophysique moderne, il faut absolument comprendre. Vous voyez, on connaît pas 70% de l'énergie, du contenu de l'univers, qui est l'énergie noire. Et 25% de masse noire, on ne connaît pas non plus la nature de la masse noire, en fait. Est-ce que ce sont des particules massives nées après les premières fractions de seconde du Big Bang? On ne sait pas, on n'a jamais encore détecté. Et donc, vous voyez, 95% du contenu de l'univers nous est encore complètement inconnu. On connaît 5% de l'univers. Donc, malgré toute notre connaissance, malgré toutes nos recherches, ça nous remet à notre place.
Vous écrivez, Trinh Chu Antoine, dans votre livre, l'idée intuitive d'un vide dépourvu de tout est non seulement erronée, mais aussi stérile. En revanche, la notion d'un vide plein, rempli d'une énergie qui change d'état au fur et à mesure du refroidissement de l'univers, est féconde et conforme à la vérité.
Tout à fait. Non, mais elle explique les choses. Ouais, elle explique le bang du Big Bang, elle explique l'origine de la matière, l'origine de la lumière. Elle explique... notre existence, elle explique peut-être l'accélération de l'univers. Donc, bon, c'est une hypothèse qui est très féconde, en fait. C'est un vide fécond, parce qu'un vide dénué de tout, de néant, qui n'a aucune propriété, sera pas très féconde.
Mais vous ne pensez pas que cette expérience de pensée, puisque pour le moment tout ça est théorique, ça n'a pas été attesté, vous ne pensez pas que c'est une expérience de pensée qui est justement extrêmement confortable et que qu'on pourrait essayer d'aller chercher un inconfort quelque part ou penser les choses justement différemment, de matière moins féconde à votre avis ?
Ça c'est bien sûr toujours le défi de la science. Vous voyez, la science n'a jamais toutes les réponses à la fois. Mais bon, moi je dirais, ce sont des idées qui expliquent le mieux ce que nous savons actuellement de l'univers. Donc c'est bien d'explorer tout ça. Et donc d'ailleurs, beaucoup d'efforts. Vous voyez, François Scon parlait tout à l'heure de supernova. Beaucoup d'efforts se sera mis pour lancer des satellites, construire le plus grand télescope pour détecter plus de supernova, de jalons, donc pour quantifier plus cette énergie noire et savoir est-ce qu'elle est vraiment connectée au vide ou non. Donc ça c'est, et puis le vide, je vous ai dit, est connecté aussi à l'inflation, donc c'est une expansion exponentielle juste une fraction de seconde après le Big Bang. Hein. Ça, on l'identifie de temps en temps au bang bang du Big Bang, vous voyez. Et ça, les physiciens disent que ça part, c'est l'énergie qui est, c'est le résultat de l'énergie qui est libérée quand l'univers passe d'un faux vide à un vrai vide. Donc, bon. Tout cela, ce sont des modèles, ce sont des recherches qui sont en train de s'effectuer. Et bien sûr, on n'a pas encore la réponse, mais c'est ce qui fait le challenge de la recherche, bien sûr.
Ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand on fait la somme de tout ce qu'on vient de se dire dans cette première demi-heure, dans l'espace intersidéral, bon, le vide n'est donc pas tout à fait vide. Non. Dans le vide concret sur Terre, le vide est encore moins vide. Au niveau quantique, le vide, donc, du fait de l'incertitude, n'est jamais tout à fait vide. Donc, on en conclut avec Aristote, main dans la main, la nature a horreur du vide. Trin Chuan Chuan.
Finalement, il a eu raison. C'est vrai, la nature n'est pas complètement vide. Mais moi, je pense que c'est pas parce que la nature a horreur du vide, mais justement à cause de la mécanique quantique.
Scientifique Nicolas Martin.
Talking to the Universe de Yoko Ono, c'est le choix de notre réalisatrice Elisabeth Miro pour la méthode scientifique. Il est 16h35, nous sommes toujours en compagnie de Trin Chuan Chuan qui publie La plénitude du vide aux éditions Albin Michel. Alors, Trin Chuan Chuan, l'émission ne s'appelle pas La méthode scientifique tout à fait par hasard. Vous en avez parlé dans quelques entretiens. Comment est-ce que vous définiriez votre méthode scientifique? En avez-vous une? Est-ce qu'il existe une méthode scientifique universelle?
Oui, moi je dirais qu'il en existe une, et d'ailleurs Galilée en est le père. C'est la méthode expérimentale. Je pense que, au contraire de la métaphysique, la physique et l'astrophysique reposent sur des expériences et d'observations. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas dire n'importe quoi sur l'univers, il faut aller faire des observations. Et moi-même, je suis observateur, je vais tout le temps à des observatoires pour recueillir la lumière et l'analyser. Et donc, une fois les données acquises par les grands télescopes ou les grands satellites, comme Hubble, que j'utilise souvent, il faut utiliser un modèle, une théorie, pour modéliser, pour comprendre ce que les données veulent dire. Et puis, en général, toute bonne théorie prédit quelque chose de nouveau qu'on peut de nouveau vérifier. Vous voyez? Et donc, on retourne au télescope ou à l'accélérateur de particules pour vérifier ce que la théorie a prédit. Alors, soit l'observation confirme ce qui a été prédit, soit elle infirme. Et donc si elle infirme, il faut reviser la théorie. Donc si c'est une faute grave, la mettre à la poubelle, recommencer à zéro, vous voyez. Mais en général, ce sont des petites modifications pour ajuster toujours la théorie aux observations. Donc, moi, je dirais ce qui est la base de la méthode scientifique, c'est l'observation expérimentale.
Vous avez grandi à Hanoï, vous avez étudié en France, puis aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que cette variété d'expériences universitaires, culturelles, a apporté quelque chose à votre propre approche scientifique, Trin Chuan Chuan?
Oui, je pense certainement. Moi, je me définis toujours à la confluence de trois cultures. Je suis né vietnamien, donc élevé dans la tradition bouddhiste et confucienne. Donc certainement, cette vision du monde bouddhiste a coloré mes points de vue. Mais ceci dit, vous voyez, et puis, comme vous dites, j'ai fait un lycée français et puis j'ai fait toutes mes études universitaires, en fait, aux États-Unis. J'ai fait toute ma carrière scientifique aux États-Unis. Et donc, moi, ce que je dirais, c'est que, l'approche, comment je vois la nature, est certainement colorée par mon éducation bouddhiste et confucienne. Mais ceci dit, la méthode scientifique est universelle, vous voyez, et donc, même si on part de certains paradigmes au début, il faut toujours la confronter à l'expérience et à l'observation. Et ça, en fait, ça doit être indépendant de toute background culturel, disons. Vous voyez? Et donc, qu'un physicien vietnamien, français ou américain ou japonais utilisera la relativité générale, la mécanique quantique, exactement de la même façon. Et d'ailleurs, chaque résultat scientifique qui doit être amené, vous voyez, doit être répété indépendamment par d'autres chercheurs, par d'autres équipes, etc.
Vous expliquiez que votre éducation confucianiste vous avait donné une vive conscience de la responsabilité du scientifique qui doit transmettre son savoir afin que chacun soit conscient des enjeux éthiques que soulèvent les progrès et de la science. Alors pourquoi une éducation confucianiste plus qu'un autre type d'éducation vous aurait donné cette conscience de la responsabilité scientifique?
Le confucianisme s'occupe en particulier donc de l'humain dans la société et elle met en particulier l'emphase sur l'éducation. Vous voyez que tout homme doit être éduqué et c'est comme ça qu'on progresse dans la vie. Et pour moi, je suis professeur, j'enseigne à des étudiants, mais aussi je me vois passeur de connaissances, et c'est pourquoi j'ai commencé à écrire, parce que ça va atteindre un public beaucoup plus large. Donc c'est essentiel pour moi cette notion de transmission de connaissances, de passeur de connaissances.
J'ai un auditeur qui nous pose cette question que je trouve intéressante sur Twitter, qui dit que, qu'en est-il de l'expression d'une théorie en langage mathématique dans ce contexte de multiculturalisme et d'influence de couleur, dites-vous, du confucianisme et du bouddhisme.
Donc de nouveau, vous voyez, le langage de la nature, ce sont les mathématiques. Donc pour comprendre la nature, il faut parler mathématiques. Mais de nouveau, moi je dirais les mathématiques ne sont pas imprégnés, doivent être de nouveau objectifs, plutôt que subjectifs, ne doit pas être imprégné de quelque culture que ce soit. Vous voyez, c'est un langage en lui-même et que tous les scientifiques utilisent. Et c'est ce langage universel scientifique.
Il y a quelque chose qui m'a fait sourire dans votre livre, Trinh Chuan Tuan. Vous dites toujours concernant ces questions, la science ne donne pas de morale, elle est comme la force d'un bras qui peut tuer ou sauver. Et chez les scientifiques, ça on peut s'accorder à ça, la science ne donne pas de morale, pourquoi pas. Mais vous dites, et chez les scientifiques, il y a des sales types comme Newton et des types bien comme Einstein. Alors je suis curieux de savoir pourquoi Newton est un sale type selon vous.
Oui, bon, c'est vrai que vous voyez... Einstein est mon héros, hein. Je pense que c'est lui qui m'a, ce sont ses écrits que je lisais adolescent qui m'ont orienté vers la science, en fait. Donc, parce que voilà quelqu'un qui était un génie scientifique, donc la relativité, il a pris part à élaborer la mécanique quantique aussi. Mais, en fait, il s'est pas retranché dans sa tour d'ivoire. Il s'est préoccupé de l'humain. C'était un homme profondément humain, par exemple. Bien que sa formule E=mc2 soit responsable de l'armement atomique, vous voyez, après les bombes lâchées sur Hiroshima et Nagasaki, il a tout de suite milité contre l'armement atomique. Il s'est déjà préoccupé dans les années 50 déjà, vous voyez, de l'État palestinien. Il disait qu'il fallait un État palestinien indépendant qui vive en paix et harmonie à côté de l'Israël. Donc tout ça, c'est profondément humain. Il était impliqué donc dans la société et pour moi, je l'admire beaucoup. Tandis que Newton, vous voyez, c'est un génie aussi. Hein. Moi, je dirais du point de génie. Parce qu'en physique, il n'y a eu que deux esprits qui ont inventé tout seul une théorie comme ça. La théorie de la gravité universelle par Newton et la théorie de la relativité par Einstein. Tous les autres, ce sont des entreprises communes, vous voyez, par des groupes. Et Newton, bien qu'il soit génial, vous voyez, avait un caractère très mesquin. Moi, je dirais, par exemple, il n'avait pas publié sa théorie de la gravitation universelle. Il le mettait dans un tiroir parce qu'il était tellement paranoïaque qu'il pensait que s'il le publiait, tout le monde lui volerait les idées. Et ils accusaient Leibniz d'avoir volé son idée de l'algèbre qu'il a inventé aussi pour traduire ses équations. Et bien que Leibniz a parfaitement découvert ça complètement indépendant de lui, et puis, bon, il a mis des barrières sur la carrière de certains de ses collègues, la Royal Society. Enfin, tout ça, moi, je trouve une personne très mesquine, pas généreuse. Et donc, voilà, c'est ça
Isaac
que je voulais
Newton,
dire.
Donc, vous voyez, était pour vous un sale type.
Voilà, voilà. Et donc, moi, je dirais que la science, en fait, est indépendante, donc, ne nous dit pas comment agir éthiquement, comment agir avec les autres personnes. Vous voyez, seule une sorte de spiritualité peut faire ça. Alors, et la science est neutre elle-même, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Elle peut sauver, mais elle peut aussi tuer. Mais seule une sorte d'éthique et de morale qui n'est pas donnée par la science peuvent nous induire à penser juste et à agir juste.
Alors justement, dans la dernière partie de votre livre intitulé « Le Tao du vide », vous rapprochez la démarche scientifique de la démarche théologique, ce qui me surprend assez, mais d'ailleurs vous l'abordez, vous allez nous l'expliquer, c'est que a priori, comme vous le dites, votre éducation confucianiste a donné une couleur à votre perception du monde et donc à vos travaux scientifiques, mais pourtant la démarche scientifique est a priori une démarche réductionniste. Hein. On décompose le réel jusqu'au plus petit état observable, là où la pensée théologique est à l'inverse une pensée holistique, une pensée du tout. Comment est-ce que vous réussissez à coordonner les deux, Trinh Chuan Tuan?
Non, mais justement, donc, cette méthode réductionniste de la science nous a permis de faire des progrès pour aboutir à une vue plus holistique du monde, justement. Et donc, et cette vue holistique du monde acquise par la méthode réductionniste n'est pas incohérente avec la vision holistique des traditions spirituelles. C'est ça qui est bien. Donc d'ailleurs, c'est ce que je voulais faire, vous savez, quand j'ai écrit ce livre à quatre mains avec Mathieu Ricard, donc sur science et bouddhisme, parce que je me disais toujours, étant de tradition bouddhiste, comment l'univers apparaissait à Bouddha quand il a atteint l'éveil il y a 2500 ans. Parce que l'éveil, c'est l'accès à la connaissance suprême. Donc Bouddha a dû voir certaines choses, vous voyez. Et comment cette vision du monde était soit convergente, soit divergente avec la vision scientifique que j'apprenais donc au XXe siècle, au XXIe siècle.
Mais alors, question, Trinh Chuen Tuen, qu'est-ce qui vous sépare dans ce que vous décrivez là du concordisme, c'est-à-dire de la volonté qu'on retrouve dans à peu près toutes les religions de vouloir faire concorder à tout prix les textes sacrés avec des faits scientifiques au prix souvent de contorsions intellectuelles un peu acrobatiques.
Alors justement, le concordisme utilise, par exemple, le christianisme utilise la science pour asseoir sa vérité. Mais en fait, vous voyez, moi je pense qu'il faut pas faire du concordisme, justement. Il faut pas utiliser.
Mais qu'est-ce qui vous en sépare? Qu'est-ce qui fait que vous n'en faites pas en essayant justement de trouver un point
Parce
de concordance
quand, quand
entre
je, quand, quand la je fais la science, sacrée. Je pratique la méthode scientifique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'utilise pas des notions bouddhistes pour démontrer quoi que ce soit. Ce sont les mathématiques et toutes les lois physiques que j'ai apprise, et puis bon, et j'ai publié mes résultats dans un journal à référer, comme tous mes autres collègues, qui est donc accepté donc par la communauté scientifique, vous voyez. Donc j'applique la méthode scientifique, la méthode expérimentale et la méthode de publication à référer que chacun de nous scientifiques doit faire. Et donc pour moi, je veux pas du tout faire du concordisme. Vous voyez, le bouddhisme, par exemple, n'a pas besoin de la science pour valider son existence. Il existe depuis 2500 ans, tandis que la science a commencé à la Renaissance. Et puis, la science
a commencé à la Renaissance, la science moderne.
Bien, la science peut très bien subsister sans aucune forme de spiritualité. Vous avez un astrophysicien athée, bouddhiste, islamique, confucien, fera exactement la même science que tous les autres. Vous voyez, il n'y aura pas de différence selon sa religion. Donc, il ne faut pas vraiment faire du concordisme. Pour moi, ce qui est important, c'est la cohérence intellectuelle. Moi, je me dis que quand vous avez deux systèmes de pensée qui sont logiques et cohérents, qui prétendent décrire la même réalité ultime, il doit se rejoindre quelque part. Parce que s'ils ne se rejoignent pas, soit l'un des systèmes de pensée est faux, soit les deux sont faux.
Ah bah alors, vous m'amenez exactement à mon point suivant, puisque vous écrivez notamment dans ce livre « Le Tao engendre l'un », c'est-à-dire que vous placez sous cette devise taoïste le fait que les phénomènes physiques se rejoignent, notamment autour du modèle standard qu'on n'arrive pas à dépasser. Mais alors, Trinh Chuen Tuen, ma question est la suivante. Que se passe-t-il le jour où ce modèle standard est invalidé par les découvertes de nouvelles particules, par exemple, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a un des deux systèmes qui est défaillant?
Oui, la science n'a jamais la vérité, donc elle sera toujours soumise aux nouvelles découvertes, aux nouvelles expériences. Donc si un jour il y a une particule, on avait très peur d'ailleurs de n'avoir pas découvert la particule de X, le boson de X.
On en a parlé jeudi dernier ici.
Voilà, donc, mais heureusement elle a été découverte, donc confirmé tout le modèle standard. Et donc...
Elle n'a pas été découverte, c'était une fluctuation, la particule X n'a pas existé, on a retrouvé le boson de X, mais l'autre particule, la particule X qu'on pensait avoir observée finalement était juste une fluctuation.
Oui, ça c'est une fluctuation, voilà. Mais le boson de X était très important pour donner la masse à toutes les autres particules.
Et ça
a été découvert, vous voyez, donc
tout
ça c'est bien. Et donc, en revenant à la science, si une nouvelle découverte soit à CERN, soit au grand télescope, avec les grands télescopes, infirme la théorie standard, bien sûr la science doit se soumettre à ça. Elle doit réviser sa théorie et la modifier, ça c'est certain. Et donc, la science a sa propre méthode. La spiritualité a sa propre méthode qui est plutôt l'intuition, pas la méthode expérimentale. Mais les deux ont certaines visions du monde et moi je dirais, pour une cohérence intellectuelle, il doit se rejoindre quelque part.
Alors, vous, oui. Le point de jonction, justement, pour vous, entre religion et science, hein, c'est ce que vous appelez le principe anthropique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots? C'est quoi ce principe anthropique?
Le principe anthropique, bon, il y a deux versions. Hein. Il y a la version faible qui dit que... Bon,
la version forte, allons-y.
Oui, la version
forte. Passons à la version forte, puisque c'est celle, que vous postulez.
Oui, c'est ça. La version forte dit que... l'univers savait quelque part que l'homme allait venir, déjà. Alors l'homme, je trouve un peu trop anthropomorphique, quelque part que la conscience allait venir. Moi je dirais ça. C'est une forme de conscience. Pour moi, un univers, l'univers est beau, l'univers est harmonieux, il y a des lois physiques qui le règlent. Et pour moi, cette beauté et cette harmonie n'aura pas de sens s'il n'y a pas une conscience pour l'observer. Vous voyez, pourquoi créer toute cette beauté, cet univers de l'univers sans que quelqu'un appréhende cette beauté? Le principe anthropique dit que donc l'homme, l'existence de l'homme ou de quelque conscience, hein, pour E.T., il faudra bien la faire aussi, est inscrite déjà des premières fractions secondes dans l'univers, dans ce qu'on appelle les constantes physiques. Vous voyez, nous vivons dans un univers qui est réglé par une quinzaine de constantes de physique. Moi, j'ai déjà mentionné la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, mais il y a la masse de l'électron, la charge de l'électron, l'intensité de la force gravitationnelle, l'intensité de la force forte ou la force faible. Enfin, donc il y a une quinzaine de constantes physiques. Et on s'est aperçu que si on variait un temps soit peu ces constantes physiques, et un temps soit peu, moi je dirais à la 60e décimale près, c'est-à-dire vous avez un chiffre...
60 chiffres après la virgule.
Voilà, après. Et vous changez un chiffre après la 60e décimale. Le chiffre 60, qui occupe la place 60e après la virgule. Vous changez le dessin de l'univers.
C'est-à-dire que l'univers ne peut plus exister.
Non, il existe, mais il ne fabrique plus d'étoiles. Et sans étoiles, il n'y aura pas de vie et de conscience, parce que nous sommes tous des poussières d'étoiles. Et donc, parce que le Big Bang n'a fait que l'hydrogène et l'hélium, en fait. Et ça, c'est pas possible pour faire la science. L'hydrogène est un élément trop simple, et l'hélium est un élément très stable, donc... pas assez de chimie complexe pour fabriquer l'ADN ou les neurones qui peuplent notre cerveau. Donc, l'univers a été réglé de façon extrêmement précise, à 10 puissance moins 60, pour l'apparition de la vie et la conscience. Alors, que penser de ces réglages? Soit on dit que c'est le pur hasard, et à ce moment-là, vous voyez, il faut postuler au moins 10 puissance 60 univers parallèles, ce qu'on appelle un multivers. Bon, il y a des théories. Maintenant,
la théorie des cordes, notamment. Théorie des cordes, notamment,
et qui disent qu'il y a peut-être un multivers. Mais moi, ça me dérange parce que le multivers ne peut jamais être observé. Donc, pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, la science est basée sur l'observation. Alors, s'il n'y a aucun moyen d'observer un univers parallèle, pour le moment, je suis contre ça. Donc, s'il n'y a pas de multivers, il faut postuler un principe créateur. Un principe créateur, donc pour moi, ce n'est pas un dieu barbu, etc., qui s'occupe de la vie de chacun de nous quotidiennement, mais c'est plutôt un principe panthéiste qui se manifeste dans la nature à l'Einstein et à la Spinoza. Vous voyez? Et donc, c'est un principe créateur qui règle les choses dès le début, dès la première fraction du second du Big Bang.
Eh bien, vous allez voir que nous arrivons doucement à la fin de cette émission et que la question qui va vous être posée va exactement dans ce sens-là, puisque nous allons vous soumettre, Trinh Chuan Tuan, à une expérience à l'aveugle. Écoutez, quelqu'un vous parle.
Cher Trinh, une question. Est-ce qu'il y a une intelligence propre à l'univers? Et dans ce cas, cette intelligence nous serait-elle intelligible? Merci de votre réponse.
Vous avez reconnu?
Oui, c'est Edgar Morin. Moi, je dirais cette intelligence, c'est justement ce principe créateur qui a réglé l'univers pour qu'il y ait une forme de vie, de conscience, qui appréhende la beauté et l'harmonie de l'univers. Et donc, moi, je dirais oui à votre question.
Mais est-ce qu'elle nous serait intelligible? C'est la deuxième partie de la question d'Edgar Morin. Est-ce que cette intelligence nous est accessible? Est-ce qu'on peut la comprendre?
Oui, moi, je pense que déjà, nous percevons ça à travers les lois physiques que nous avons découvertes. Bon, bien sûr, nous n'avons pas tout découvert, mais je pense que peu à peu, bon, je pense que c'est vrai que bon, l'univers étant infini, notre esprit étant fini, je ne sais pas si nous pourrons jamais tout connaître. C'est le sens du titre de mon premier ouvrage qui s'appelait La Mélodie Secrète. Vous voyez, la mélodie restera toujours secrète, mais nous tendrons toujours vers de plus en plus. Je pense, nous comprendrons toujours de plus en plus l'univers. Mais il nous restera à jamais mystérieux, je pense.
Alors, dites-moi, pour conclure cette émission, puisqu'il nous reste quelques minutes, Trinh Chuyen Tuan, vous avez travaillé sur l'infini, vous avez travaillé sur le vide. Quel sera votre prochain champ d'exploration, maintenant que vous avez fait les deux extrêmes, l'alpha et l'oméga?
Bon, pour l'instant, mon prochain ouvrage, je pense que j'écris quelque chose de plus poétique sur la nuit.
Sur la nuit? Oui. Qu'est-ce que vous voulez raconter sur la nuit? Vous avez commencé à y travailler, à y réfléchir?
Oui, un peu. Peut-être, vous voyez, l'interaction entre la science et l'art. Peut-être. Bon, mais j'aime bien faire les ponts, la transdisciplinité. Et les peintres ont beaucoup travaillé sur l'obscurité et la lumière. Et c'est un peu, hein, c'est ce que l'univers, la nuit, c'est bien sûr l'obscurité. Mais il y a la lumière qui nous vient des galaxies et des étoiles et qui donc nous transmet ce message cosmique que nous décodons pour comprendre l'univers.
Donc ce sera aussi une façon de réinterroger ce dont on parlait tout à l'heure, la matière noire, l'énergie noire de l'espace. Et je vais vous poser une toute dernière question avant de nous quitter, une question que je pose souvent aux invités de la méthode scientifique. S'il y avait un livre de votre bibliothèque scientifique qui a été pour vous vraiment un élément déclencheur, un élément marqueur, vous disiez tout à l'heure que Einstein est votre héros, est-ce que je me trompe en disant que ce livre sera un livre d'Einstein?
Oui, non, vous ne vous trompez pas. Oui, j'avais lu ce livre, Comment je vois le monde, à 14 ans, et c'est celui qui a été déterminant dans ma carrière scientifique, parce que à 14 ans, j'étais en cherche d'une voie, d'une vocation, vous voyez, et ce livre m'a montré l'exemple d'un grand scientifique, mais aussi d'un grand humain.
Mais plus généralement, à propos de ce livre, est-ce que vous avez le souvenir de ce que c'est à ce moment-là que vous vous dites, c'est ça que je veux faire, je veux aller travailler
oui,
la physique,
fait,
je veux regarder
fait,
l'espace?
Oui, tout à fait, parce qu'il parle justement de la physique. Et puis des personnages qu'il admirait, des personnages scientifiques aussi, et puis des problèmes qui le préoccupaient, le problème du monde dont je parlais tout à l'heure, l'armement atomique. Voilà, donc tout ça, ça a déclenché. Bien sûr, j'étais déjà curieux, je voulais devenir... j'étais bon à la fois en lettres et en sciences, mais c'est ce livre qui a déclenché ma vocation.
Merci beaucoup Trinh Chuyen Tuan d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, La plénitude du vide, c'est aux éditions Albin Michel, et je vous signale par ailleurs que sera remis demain le prix Irène Joliot-Curie, un prix qui est décerné par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, qui récompense chaque année 3 femmes scientifiques. On vous en reparle très vite dès vendredi dans le journal des sciences de la méthode scientifique. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Evétienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Céline Lausanne, Léo Quentin, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Edouard Rubinstein et au droit d'auteur Victor Buton. Demain dans la méthode scientifique, il sera question des nouveaux matériaux, des matériaux du futur, ceux qui seront utilisés dans la recherche, dans la construction, dans la médecine, dans l'industrie textile aussi. Vous saurez tout sur ces composés du troisième type. Dans un tout petit instant, deuxième LSD de la semaine, la série documentaire de Perrine Cavran consacrée cette semaine aux migrants et aux passeurs. Nous, on se retrouve demain, comme chaque jour à 16h, jusqu'à preuve du contraire.